Bien, nous allons reprendre cette matinée en écoutant deux nouvelles communications. Donc, la première nous sera présentée par Jean-Baptiste Amadieu, qui est chercheur au CNRS, rattaché à l'Unité République des Savoirs, et qui s'intéresse tout particulièrement aux phénomènes de censure et plus généralement aux relations qui se nouent entre le littéraire, le juridique et le religieux. Il est notamment l'auteur du livre qu'il va nous présenter, qui s'intitule « La littérature française au XIXe siècle, mise à l'index, les procédures », et qui vient de paraître au CERF l'an dernier, en 2017. Il dirige par ailleurs la collection « Littérature et censure » aux éditions Classique Garnier. Je ne m'attarde pas davantage pour lui laisser la parole.
Merci, Madame la Présidente. Je remercie également Antoine Compagnon de son aimable invitation pour ce colloque sur les nouveaux objets et les nouvelles méthodes de l'histoire littéraire. En 1998, le cardinal Joseph Ratzinger décide d'ouvrir les archives historiques de sa congrégation, la Congrégation pour la doctrine de la foi, dans un contexte de repentance voulue par le pape Jean-Paul II. Et ces archives historiques comprennent notamment deux fonds importants d'archives, le fonds du Saint-Office, qui est l'ancienne Inquisition romaine et universelle et qui devient, après le Concile Vatican II, Congrégation pour la doctrine de la foi, mais également d'une autre congrégation, la Congrégation de l'Index. Le terme d'index désigne d'abord un catalogue, un livre de bibliographie indiquant tous les ouvrages interdits de lecture aux fidèles catholiques. Mais le terme désigne aussi une congrégation, un dicastère, c'est-à-dire une sorte de ministère au sein de l'Église romaine, une assemblée de cardinaux dirigée par un cardinal préfet, et qui comprend également des consulteurs, c'est-à-dire des ecclésiastiques de haut rang, mais qui n'ont pas la dignité cardinalice. Cette congrégation de l'index disparaît en 1917, et ses compétences pour mettre à jour le catalogue de l'index, ses compétences sont transférées au Saint-Office, à une section du Saint-Office intitulée « Censura Librorum ». De nombreuses œuvres de fiction françaises du XIXe siècle, à la fois romans et pièces de théâtre, ont été mises à l'index. Mais le catalogue ne précisait pas les motifs. Désormais, grâce à l'ouverture de ces archives, nous avons accès à l'ensemble des pièces de procédure. L'index, si on l'ouvrait par exemple à l'entrée Sand, Georges Sand, vous aviez tout simplement la clausule de condamnation, omnes fabulae amatoriae, toutes les histoires d'amour, et ensuite vous aviez la date du décret. En l'occurrence, il y a 4 décrets de condamnation, le dernier de 1863. Ici, il s'agit d'un index de 1900, donc qui subit la simplification administrative voulue par Léon XIII, mais si nous prenons les index antérieurs, une édition plus ancienne, par exemple l'édition de Grégoire XVI, Grégoire XVI est mort en 1846, vous avez à l'entrée Georges Sand, d'ailleurs classé à la lettre G, puisqu'on considère que son pseudonyme est, on pourrait mettre une sorte de tiret entre Georges et Sand, vous avez beaucoup plus de précision, c'est-à-dire l'Elia est condamné par le décret du 27 novembre 1840, ensuite vous avez le décret du 30 mars 1841 avec plusieurs titres mis à l'index, et enfin un décret du 5 avril 1842 qui porte condamnation de Spiridion. Bien entendu, le dernier décret, celui de 1863, n'est pas présent, puisque c'est une édition qui est antérieure. Voilà, donc on ne savait pas plus sur les mises à l'index que ce que indiquait le catalogue de l'index. Ces décrets étaient quand même publics. Je vous montre l'exemple du décret de condamnation de Spiridion de Sand. Vous voyez que Spiridion apparaît dans la liste en quatrième position. Et juste en dessous, nous trouvons le vicaire des Ardennes de Balzac, sous le pseudonyme d'Horace de Saint-Aubin, et également la femme supérieure, la maison Nucingen et la torpille, toujours de Balzac. Alors, quelles ont été les principales œuvres du XIXe siècle fictionnel mis à l'index? Je vous présente donc un tableau récapitulatif. Vous avez des clausules nominatives, c'est-à-dire, alors, on distingue deux types de condamnations, une clausule nominative, c'est-à-dire un titre de livre, et une clausule générale, c'est un ensemble de livres, voire toute l'œuvre, ce sont les opéras omnia. Donc Hugo et Lamartine sont condamnés, et ensuite il y a une abondante condamnation de deux auteurs qui sont Sand et Balzac. En effet, l'Annonciature à Paris, au début des années 1840, envoie une caisse d'une trentaine de livres de Sand et Balzac à la congrégation qui les examine progressivement au fil des sessions, puisque chaque ouvrage doit faire l'objet d'un rapport, et quand il y a plusieurs ouvrages, en général on confie à plusieurs rapporteurs la rédaction de ces analyses. Pour les années 1850 et 1860, on voit apparaître davantage de clausules générales plutôt que nominatives. Par exemple, pour Eugène Sue, vous avez l'ensemble des œuvres, quelle que soit la langue. Pour Dumas, condamnation générale de ses écrits romanesques, qu'il s'agisse de Dumas père ou de Dumas fils, et dans toutes les langues également. 63, toujours la même année que Dumas, c'est Georges Sand avec ses opéras omnia, c'est le quatrième décret qui porte condamnation de ses œuvres. Et enfin, ce grand décret du 20 juin 1864, qui est très particulier, puisque plusieurs auteurs sont signalés, et pour certains, vous avez des condamnations mixtes, à la fois des condamnations de titre, mais aussi des condamnations générales. Par exemple, pour Balzac, vous avez là, donc la dernière, vous avez Le Père Goriot, L'Histoire des 13, Splendeur et misère des courtisanes, et aussi, clausule générale, Et omnia scripta, donc tous les écrits de Balzac. Le pape Pie IX consent à approuver ce décret de condamnation, mais convoque ensuite le préfet de l'Index pour lui demander d'arrêter les examens de la littérature française, ce qui explique un silence de 30 ans de la congrégation de l'Index, puisqu'il faut attendre 1894 pour que de nouveau la littérature française fasse l'objet d'une condamnation, avec le premier roman de la trilogie de Zola, Lourdes, en 1894. Sachant que les Rougon-Macquart avaient déjà été dénoncés par l'Annonciature dans les années 1870, mais effectivement, l'Index a respecté cette volonté de Pie IX de ne plus examiner la littérature française et donc n'a pas fait l'objet de poursuites. L'examen de Lourdes conduit la congrégation à s'intéresser à l'ensemble des œuvres. Donc vous avez un décret Opéra Omnia en 1895, puis après la parution de Rome, la congrégation examine de nouveau le roman. Alors, une condamnation opéra omnia, c'est toujours une condamnation jusqu'à la date du décret, puisqu'on ne peut jamais présumer, évidemment, ce que produira un auteur. C'est pour ça qu'on continue au-delà. Tant qu'un auteur est vivant et publie, il peut toujours faire l'objet de nouvelles mises à l'index. Voilà pour ce qui concerne le corpus qui m'a été donné d'analyser. La documentation inédite, accessible désormais à la recherche, concerne essentiellement deux fonds à l'intérieur de l'index, deux matériaux d'archives. D'abord, le journal de la congrégation, qui est une chronique des sessions de la congrégation, de toutes les activités de la congrégation. C'est un journal manuscrit, vous avez une série de cahiers manuscrits par le secrétaire de la congrégation, et surtout les protocoles. Les protocoles sont l'ensemble des pièces de procédure. Si l'on passe d'un matériau à l'autre, on peut suivre étape par étape la procédure. Et je prendrai l'exemple de Spiridion de Sand pour vous montrer les archives qui sont désormais ouvertes et le fonctionnement. Alors, le premier moment de la mise à l'index, c'est la rédaction d'un votum, c'est-à-dire un rapport, une analyse de l'œuvre par un consulteur de la congrégation, qui est donc le rapporteur sur l'œuvre. Je vous ai ici mis le premier paragraphe du votum sur Spiridion de Sand par Redzi. Le rapport compte 5 pages imprimées. C'est à peu près la moyenne. Ça peut être beaucoup plus long, puisque par exemple Rome de Zola fait l'objet d'un rapport de 40 pages imprimées par le consulteur de l'index. Ce rapport est destiné aux cardinaux, d'où la formule d'adresse au tout début, les très éminents seigneurs étant les cardinaux. Et ce rapport doit toujours se terminer, après l'analyse de l'œuvre, par un avis, d'où le terme de votum. Le consulteur doit proposer une décision à prendre aux cardinaux, soit demander l'interdiction, soit abandonner les poursuites, soit demander des corrections à l'auteur. Une fois que ce votum est rédigé et imprimé, il est envoyé à tous les membres, à la fois les consulteurs et les cardinaux, et a lieu une première assemblée collégiale qui s'appelle la congrégation préparatoire, qui regroupe l'ensemble des consulteurs, le maître du Sacré-Palais, le secrétaire de la congrégation, et qui, à la lumière de l'œuvre et du rapport, vote en faveur d'une décision. C'est une décision qui n'est que consultative, bien entendu, puisque seuls les cardinaux ont le pouvoir de décréter. Alors, j'ai dû couper le document du journal pour une question de place, mais par la suite, cette relation de la congrégation préparatoire, que l'on trouve dans le journal de la congrégation, donne les résultats du scrutin. Pour ce qui est de Spiridion de Sande, à l'unanimité, les consulteurs sont, selon la formule consacrée, in voto consultoris, c'est-à-dire sont de l'avis ou du votum du consulteur, c'est-à-dire réclament donc l'interdiction. La congrégation préparatoire terminée, c'est au tour des cardinaux de délibérer. L'une des pièces que l'on trouve dans les protocoles, c'est la convocation des cardinaux à la congrégation générale qui doit se tenir au palais du Vatican, sachant que la congrégation préparatoire se tient au couvent de la Minerve à Rome, juste à côté du Panthéon. Et vous voyez que le Spiridion de Sande apparaît en première position. Le nom de son rapporteur figure en dessous. La congrégation générale fait aussi l'objet d'un rapport à l'intérieur du journal, à la date donc là, du 5 avril. C'est assez intéressant puisque nous avons la liste à chaque fois des juges pour les œuvres, ce que l'on ne connaissait pas non plus, ni les motifs, ni les juges. Alors tous ces noms nous sont étrangers, sauf peut-être celui du cardinal May, Angelo May, qui est l'inventeur d'une méthode pour découvrir les palimpsestes et qui a édité les livres qu'on croyait longtemps perdus de Cicéron, le De Republica. Donc, les cardinaux se réunissent et décrètent sur chacun des titres. Ici, tous les titres ont fait l'objet d'une proscription absolue, c'est-à-dire ceux de la liste de la convocation. La procédure ne s'arrête pas là, puisqu'il faut encore que ce décret des cardinaux soit ratifié par le pape. Pour cela, le secrétaire de la congrégation se rend en audience auprès du pape et présente les arguments un peu simplifiés, c'est-à-dire un très succinct résumé de chacune des censures. Donc vous voyez que Spiridion de Sande tient simplement quelques lignes, comme les autres ouvrages, pour que le pape puisse prendre sa décision de façon éclairée. Donc ces notes qu'emporte avec lui le secrétaire sont aussi conservés dans les protocoles de la congrégation. Nous savons comment s'est passée l'audience, cette fois-ci grâce au journal. Il y a eu une première audience le 11 avril où le pape a lu les actes mais n'a pas accepté la promulgation. Il a réclamé l'ensemble des votes et des pièces pour convoquer une dizaine de jours plus tard de nouveau le secrétaire et accepter la promulgation. Le pape à l'époque est Grégoire XVI. Avant son élection, il était notamment consulteur de la congrégation de l'index et donc il suivait de très près les travaux. Effectivement, le pape a aussi cette possibilité de bloquer tout ou partie d'un décret cardinalis. Il peut demander de recommencer les travaux d'analyse s'il n'est pas satisfait des résultats, ou il peut accepter la validité du décret, mais choisir de le laisser secret. Ça a été par exemple le cas de la mise à l'index de Charles Maurras en 1910, qui n'a été divulguée qu'en 1926, puisque Pidis et Benoît XV avaient décidé de ne pas rendre public ce décret de condamnation. Une fois que le pape a accepté la promulgation, le décret est signé. Vous avez là le décret original manuscrit, puis imprimé, apposé dans un certain nombre de lieux à Rome et enfin diffusée aux nonciatures pour information. Donc, pour chacune des œuvres mises à l'index, nous avons en général l'ensemble des pièces de procédure, ce qui nous permet effectivement de suivre à la trace le fonctionnement du procès. Mais grâce à l'ouverture des archives, nous connaissons aussi les procédures qui n'ont pas abouti à une condamnation, ce qu'on ignorait complètement, puisque l'index se contente de mentionner les noms et les livres des ouvrages condamnés, mais en aucun cas ceux qui ont fait l'objet d'un abandon des poursuites. C'est par exemple le cas d'Une larme du diable de Théophile Gautier. Le votum demande l'interdiction, la congrégation préparatoire confirme cet avis, mais les cardinaux abandonnent les poursuites. C'est aussi le cas, par exemple, aussi de Chatterton de Vigny, puisque dès le votum, le rapporteur explique que si l'ouvrage, dans son analyse, effectivement, n'est pas conforme aux enseignements doctrinaux et moraux, en revanche, il ne présente pas de danger particulier et donc ne mérite pas de mise à l'index. Donc, au bout de 6 pages d'analyse des écarts par rapport à la foi et par rapport à la morale, le rapporteur, qui est Raphaël Fornari, futur nonce à Paris, futur cardinal Fornari, qui avait préparé la rédaction du syllabus de Pie IX, voici ce qu'il écrit. « Mais après cet exposé des idées immorales, irreligieuses et révolutionnaires qu'à chaque pas on rencontre autant dans le drame que dans la préface et qui composent l'un et l'autre un mauvais livre, sera-t-il pour autant un livre à interdire par la sacrée congrégation ? C'est au jugement très savant de leurs éminences révérendissimes qu'il appartiendra de le décider. J'avoue que je me trouve très embarrassé pour prononcer un avis, quel qu'il soit, par rapport à une telle demande. » Le but qu'avec beaucoup de sainteté, les pères du Saint-Concile de Trente se sont fixés à l'esprit en créant le premier index librorum prohibitorum et qu'a toujours devant les yeux la sacrée congrégation dans tous ses décrets n'est pas tant celui d'interdire les livres mauvais que celui d'interdire les livres qui, par leur malignité, peuvent porter préjudice aux âmes des fidèles. C'est un lieu commun rhétorique qu'on trouve dans toutes les censures, c'est-à-dire que l'objectif des censeurs est de repérer les ouvrages dangereux, non pas les ouvrages hétérodoxes ou immoraux, mais ceux qui vont au-delà et qui peuvent influencer, inciter, comme on dirait dans le droit français actuel, des sentiments nuisibles. Il peut y en avoir beaucoup dont il est improbable, quoique mauvais, qu'ils portassent préjudice parce qu'ils ne sont pas à la portée de tous, comme le seraient de nombreux classiques grecs et latins, qui, en dépit des nombreuses obscénités qu'ils contiennent, ne sont pas interdits pour cette raison ou parce que, bien qu'ils soient à la portée de tous, leur nullité, pour ainsi dire, est si grande qu'il n'est pas croyable qu'ils puissent porter préjudice et ils tombent dans l'oubli dès leur première parution, parce que, remplis d'ineptie et dépourvus de tout mérite littéraire, ce qui est précisément le cas dont on traite ici. Puis il se lance dans une sorte d'analyse au vitriol du style de Chatterton, en montrant qu'en aucun cas, le personnage pourra exercer un charme, une séduction, puisque c'est le terme qui revient régulièrement, à la fois sous l'aspect de séduisant et séducteur, on dirait manipulateur, du style. Donc, nous avons aussi accès à toutes ces procédures qui ont abouti à un abandon des poursuites, parfois même d'auteurs qui, par la suite, sont de nouveau condamnés. C'est le cas de Eugène Sue. Vous avez vu qu'en 1852, il est condamné au per omnia, mais un premier examen de 1845, qui ne porte que sur les mystères de Paris, considère que l'ouvrage n'a rien de mauvais ou de dangereux. Et les congrégations successives approuvent l'avis du rapporteur. J'ai passé les 20 minutes, donc je vais dire quelques mots de conclusion. Je me centrerai simplement sur l'un des termes, du colloque, non pas « nouvelle méthode » mais « nouvel objet ». C'est un objet effectivement nouveau dans la mesure où il est inédit, mais pas simplement parce qu'il est inédit, parce qu'effectivement il y a une difficulté peut-être à le situer au sein de la discipline. Ce n'est pas un objet qui peut strictement se rapporter à une collection de critiques littéraires, par exemple, inédites. ce n'est pas interne à la discipline, ce n'est pas même un objet qui serait externe, mais qui aurait une prise avec la discipline, comme le seraient par exemple les censures dramatiques. Les procès-verbaux de la censure dramatique au XIXe siècle sont publiés récemment par Odile Krakowicz. La censure dramatique a un effet direct et immédiat sur la littérature. Par exemple, les pièces publiées par Musset ne sont pas conformes aux manuscrits, puisqu'il souhaitait être joué, notamment joué en province, et donc il a respecté les demandes de la censure. De même, les procès littéraires, puisque l'amputation, par exemple, des Fleurs du Mal. Ici, ce n'est pas le cas, puisque l'index n'a pas d'effet juridique, coercitif, en France au XIXe siècle, et même au sein du monde catholique, longtemps, jusqu'aux années 1850, au moins, sinon jusqu'à la fin du siècle, la maxime gallicane « index non vigeat in Gallia », c'est-à-dire l'index n'a pas de vigueur en France, sert de jurisprudence. Et l'effet est très faible. Il n'y a qu'une exception parmi ses œuvres, c'est Rome de Zola, puisque Zola avait fait l'objet d'une première mise à l'index, si bien qu'il choisit comme sujet de son roman la mise à l'index du livre de l'abbé Froment, qui est le protagoniste de Lourdes. Mais cet effet n'est pas celui, effectivement, de l'amputation ou de la correction, mais plutôt de l'inspiration. Donc ce n'est pas l'effet attendu, au fond, d'une censure. Cet objet nouveau nous éclaire sur le regard porté par l'institution ecclésiale sur la littérature et, me semble, permet d'apporter un éclairage, un complément à l'œuvre magistrale de Paul Bénichoux, qui porte son regard plutôt sur les écrivains, sur les religiosités romantiques telles qu'elles sont vues, conçues par les écrivains, si bien que là, nous avons de certaine manière le regard du magistère sur ces mêmes religiosités romantiques. Voilà. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Alors, j'ai plusieurs questions, mais il y en a une à laquelle ta conclusion a répondu en partie. C'était une question sur le degré exact d'observance des interdits. Quel était leur impact ? Parce qu'effectivement, j'avais en tête que l'Église gallicane, jalouse d'une certaine forme d'indépendance, n'appliquait pas nécessairement l'interdit. Mais alors, du coup, parce qu'en plus, ça... La question m'était venue au moment où tu as parlé de Maurras, parce qu'à partir du moment où il y a un interdit qui est posé en 1910, si j'ai bien compris, mais qui n'est pas rendu public avant 1926, qu'en est-il de l'effet de ces...
Ça n'a aucun effet. Si j'avais eu plus de temps, peut-être que j'aurais parlé aussi des problèmes disciplinaires pour aborder... un sujet qui est à la fois dans l'histoire littéraire, mais aussi l'histoire de la jurisprudence, et l'histoire de la lecture, ou encore l'histoire de la curie romaine. Alors, pour répondre à ta question, le régime juridique propre à l'index n'a rien à voir avec ce que nous concevons comme droit, à la fois dans le degré de normativité, puisque ça a été l'un des fils conducteurs de ce travail, de montrer au fond tous les écarts qu'il y a entre les normes qui sont fixées par le législateur et les libertés que prennent aussi bien les censeurs que les lecteurs. Je me souviens que mon jury de thèse, mon directeur Antoine Compagnon, m'avait dit « on a parfois l'impression qu'il n'y a que des exceptions et que la règle, la norme n'est pas observée ». Alors, effectivement, l'Église de France met un certain temps à reconnaître la valeur juridique de l'index, mais une fois que cette valeur est reconnue, disons pour le monde clérical à partir de 1850, et pour le grand public, si je puis dire, des fidèles, au moment où Léon XIII publie son encyclique en 1897, Officiorum ac Munerum, qui confirme l'autorité de l'index, eh bien, afflue une grande quantité de demandes de dérogation. Là aussi, c'est impensable dans notre régime juridique, c'est-à-dire si un livre ou un spectacle est interdit, en aucun cas on peut aller devant le tribunal ou l'autorité administrative avec une attestation, je ne sais pas, de son psy qui explique que non, le livre n'aura aucune incidence, il n'y aura pas de contagion de la haine sur le spectateur. Mais c'est le cas, effectivement, pour l'index qui accorde des dérogations. Donc là aussi, si bien que c'est plutôt de l'ordre de l'appel au boycott, que concrètement, effectivement. Alors, dans le Mora, c'est encore une autre chose, c'est-à-dire puisqu'on en a l'ignorance, ça n'appartient pas vraiment au droit. Le minimum du droit, c'est la publicité, me semble-t-il.
Merci beaucoup. J'avais une autre question ou série de questions. C'est peut-être plus la linguiste qui parle. Est-ce qu'on a des témoignages sur les procédés ou les procédures qui sont utilisées par les censeurs pour effectuer leur lecture? Parce que c'est des lectures un peu sérielles, donc j'imagine, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des procédés d'indexation? Est-ce qu'on sait ce qu'ils pointent? Est-ce que ça peut être un usage du lexique ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a des...
Alors, en fait, pour répondre à cette question, je ferai d'abord une distinction entre le domaine proprement doctrinal ou moral, où effectivement il y a une ars sensoria, très bien étudiée par Bruno Neveu pour une tout période antérieure, mais comme il explique dans l'erreur et son juste, ça a été perdu, puisqu'il montre très bien la différence qu'il y a entre les censures précises jusqu'à Auctorem Fidei à la fin du XVIIIe siècle, et le syllabus qui ne fait plus de distinction entre les qualificatifs et qui considère comme erreur moderne en général les propositions énoncées. Maintenant, pour l'aspect littéraire, ça. Non, il n'y a pas de codification, mais ce que j'ai constaté par rapport aux récurrences, c'est une forme de pratique jurisprudentielle. La terminologie la plus récurrente, c'est le terme de séduction. Le censeur cherche à évaluer la séduction de l'ouvrage à travers son style. Mais le style regroupe deux aspects. D'abord, la propriété, enfin les valeurs rhétoriques de propriété et d'élégance. Et là, c'est un style qui est circonstance atténuante, c'est-à-dire le Concile de Trente interdit la lecture des ouvrages obscènes, sauf les ouvrages antiques qui sont écrits avec élégance et avec propriété, l'appropriation. Donc c'est le niveau linguistique textuel. En revanche, la séduction, les qualités de style qui sont circonstances aggravantes, comme on le voit à contrario par rapport à Alfred de Vigny, sont plutôt les procédés structurels. Les récits haletants, les descriptions réussies, les macro-procédés, si on veut, qui sont de l'ordre un peu de la facilité, c'est-à-dire les images, les antithèses et les hyperboles.
C'est ça, oui. Ouais. Parce que moi, je, bien sûr, étant 17e, j'ai pas pu m'empêcher de penser, par exemple, à la querelle sur la moralité du théâtre, où il y a une réflexion aussi sur... c'est assez intéressant, parce que c'est souvent les censeurs sont particulièrement sensibles à la puissance du texte. C'est exactement ce que tu montres, en fait. C'est que finalement, et c'est la même chose au XVIIe, au fond, ceux qui parlent le mieux des pouvoirs du théâtre, c'est peut-être ceux qui le condamnent. Exactement. Avec en plus une réflexion sur ce qui... Et c'est pour ça que ça rejoint un peu la question de Chatterton, sur ce qui fait exemplarité, disons. Ce qui produit de l'exemplarité ou ce qui produit un désir d'imitation. Et apparemment, de manière sous-jacente, c'est d'une certaine manière... Alors, exemplarité, ça ne vaudrait peut-être plus comme terme, mais la question de l'appel à l'imitation, elle traverse. Parce que, par exemple, au XVIIe siècle, voilà, la tragédie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est plus blâmable que la comédie, parce qu'elle est plus dangereuse, parce qu'elle suscite le désir d'imitation.
Oui, cette question-là, effectivement, arrive souvent à la fin. Et les censeurs sont assez gênés et supposent une sorte de partition du public, c'est-à-dire certains sont suffisamment aguerris pour ne pas se laisser influencer et d'autres sont plus vulnérables. Souvent, c'est l'expression la plus commune, puisqu'on parlait de récurrence lexicale, c'est celle de jeunesse inexperte, qui est facilement dupe des procédés de style. Ce qui explique d'ailleurs que les dérogations sont accordées assez facilement, puisque par principe de prudence, l'index interdit un ouvrage qui présente des dangers potentiels sur une catégorie du public et après accorde les dérogations, les autorisations pour ceux qui sont moins vulnérables. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au moraliste, puisque en fait, ce lieu commun de la séduction, effectivement, on le trouve dans la critique littéraire. On le trouve chez Rousseau dans la lettre à D'Alembert. Il explique bien la séduction que peut exercer Molière aussi. Ça continue après jusqu'au XXe siècle, bon, avec pas exactement le même terme. Mais je pense au contre-Céline de Jean-Pierre Martin, où effectivement la petite musique célinienne est analysée un peu de la même manière, c'est-à-dire qui accroît le danger de l'œuvre.
Vous ne voudrez pas monopoliser la parole ?